Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Éric Massé, bonjour.
Bonjour.
Et également de Isabelle Catois.
Bonjour.
Nous sommes ensemble pour parler du spectacle Les Bonnes qui passe ce vendredi 14 décembre à Die. Mais l'interview sera diffusée après, c'est-à-dire que les gens nous entendent plus tard, c'est pas grave, hein, tant pis pour Die, mais par contre vous êtes en tournée dans le coin. Et puis le principe aussi de cette interview, ça va être de parler un peu de votre carrière, Éric, et puis de ce travail de mise en scène et de ce spectacle de manière générale.
Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire des confessions qu'on ferait pas avant spectacle. Parce que s'il y a des choses que je dis, ça va vendre la mèche, là finalement les gens vont l'entendre après, donc je peux vraiment me livrer.
C'est vrai. Sauf s'il y a encore d'autres dates dans le Diwa. Hein.
Non, là on termine, après on va dans un autre département du Drôme Ardèche.
Un autre département que la Drôme.
Voilà.
Très bien. Alors Éric Massé, est-ce qu'on pourrait avoir une petite biographie?
Waouh. Bon alors, rapide. Hein. Né dans un village dans l'Ouest, grandi dans une ferme, et puis j'ai découvert le théâtre vers 18 ans. Et après, je n'ai plus. C'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Donc après, je n'ai plus quitté cette voie. Et j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir entrer dans des écoles nationales parce que je n'étais pas bien fortuné, ma famille non plus. Et puis, je n'étais pas du tout dans un milieu culturel ni cultivé. Et ça a été une chance. Tout ça m'a permis de faire 3 ans à Bordeaux. Puis ensuite, j'ai pu intégrer l'école du CDN de Saint-Étienne qui avait été fondée en compagnie de Jean Dasté. Donc, c'est quand même le must niveau décentralisation, état d'esprit. Et suite à ça, j'ai créé ma compagnie. Mais toujours dans un esprit d'investir les théâtres, quelles que soient les structures, hein, ça peut être les grands théâtres ou des plus petits ou même des opéras. Et puis en parallèle, toujours aller travailler dans des lieux un peu inattendus, des maisons d'arrêt, des hôpitaux psychiatriques, travailler aussi dans des lieux qui n'attendent pas de spectacle, puisque ça peut être des appartements, des salles des fêtes, des cryptes, comme en ce moment avec Les Bonnes, où nous jouons à la fois en salle comme à Die ce soir, et à la fois dans des petites salles, des salles des fêtes à travers Drôme Ardèche depuis déjà 4 semaines et encore pour toute la semaine prochaine. Voilà.
On a quand même entendu dans cette brève biographie, c'est difficile à dire d'affilée ça, que vous n'étiez pas de ce milieu-là pour finalement aller vers ce milieu. Alors, quel a été le déclencheur?
Il y a eu 2 déclencheurs. Il y avait une fille au lycée que je trouvais absolument superbe et qui me dit « je m'inscris à l'atelier théâtre ». Et moi, je dis bah, « moi aussi, hein, évidemment ». Elle n'est jamais venue, mais bon, moi, je m'étais inscrit, donc j'étais à la première réunion et le prof était super. Et bon, je me suis dit bon, « ok, pourquoi pas continuer ?» Je n'avais jamais fait. Donc voilà, ça, c'était la première chose. Et puis ce prof, au bout de 2 mois, nous emmène voir une pièce qui s'appelle « Le Book de Fassbinder », donc qui parle du racisme ordinaire, on va dire. Et j'étais fasciné parce que je crois que j'avais vu du théâtre dans mon village où le meilleur rôle c'est le souffleur parce que c'est le plus naturel, ou autrement à la télévision dans des pièces de boulevard, et ça m'avait jamais excité plus que ça. Et là d'un seul coup je me dis waouh, on peut parler de faits de société sur scène, c'est possible quoi. Donc c'est ce qui m'a motivé, je me suis dit ouais, c'est un endroit où il faut être quoi. Voilà, c'était pas plus que ça, parce qu'à l'époque mon esprit n'était pas assez développé pour avoir une pensée plus importante que c'est là qu'il faut être. Et c'est comme ça que j'ai démarré, et je pense que Les Bonnes, on retrouve cet endroit de nécessité où quelque part avec une pièce de 1947 nous parlons avec les actrices et les créateurs techniques d'aujourd'hui et de problématiques qui nous appartiennent à 100%.
Est-ce que c'est un fil rouge au long de votre carrière?
Ouais. C'est-à-dire que
la comédie sociale, quoi, on va dire.
Oui, c'est ça. Des gens qui disent oui, mais en même temps, si vous faites une pièce d'époque, pourquoi vous n'avez pas des habits d'époque? Je dis moi, j'y étais pas à l'époque. Et puis, les reconstitutions historiques, c'est bien pour les musées, quoi.
Les Bonnes sont passées à Luc dans les écoles aussi parce que il y a cette démarche sociale.
Alors pas du tout dans les écoles Les Bonnes. Hein.
C'était
Les Bonnes Intimités, donc les petites formules qui tournent effectivement avec la comédie itinérante dans les salles des fêtes en Drôme et en Ardèche. Il n'y a pas eu d'action culturelle spécifique sur Les Bonnes.
D'accord.
Voilà.
On ne peut
pas en faire sur tous les spectacles, on en fait déjà beaucoup.
Concentrons-nous sur cette pièce. Est-ce qu'on pourrait la décrire un peu sans trop en dévoiler?
C'est l'histoire, déjà c'est tiré d'un fait divers. qui est l'effet d'hiver. En 1933, les deux sœurs Papin pètent les plombs, une soirée où les plombs avaient pété dans la maison, tout se tient, et vont assassiner sauvagement leur patronne, mère et fille. Après ça, Genet et pas mal d'artistes de l'époque sont fascinés par le cas. Lacan écrit des choses sur elle, il y a des poèmes, etc. Et Genet donc, va partir de cette source d'inspiration pour écrire une pièce sur les bonnes, sauf qu'il va complètement se retirer du sordide et du problème de on va dire, au premier problème premier de lutte sociale entre maître et domestique, et il va faire une pièce beaucoup plus poétique où le fantasme a beaucoup de place. Donc le désir de meurtre est très présent. Quand elles disent qu'elles veulent la tuer, on n'entend pas trop de récriminations sociales. C'est plus un clivage naturel et puis un désir de prendre sa place qui est au premier plan.
Le fait divers, à la base, c'était vraiment un problème social ?
Non, parce que justement, c'est là où Genet finalement a été pertinent. Beaucoup de gens ont voulu les récupérer en disant voilà, c'est qu'elles sont maltraitées, etc. Et vraiment, l'enquête a été faite et elles l'ont dit, pour des domestiques à l'époque, elles étaient correctement traitées. Elles n'avaient pas de conflit majeur avec leur patron. C'est ce qui fait que le crime a été très compliqué à comprendre et même incompris au moment où il a été fait. Avec du recul, ça n'a pas été nommé à l'époque, mais on comprend qu'en fait, c'est une journée où elles pensaient que les patronnes ne viendraient pas, enfin ne devaient pas venir. Les plombs avaient sauté, donc elles ne pouvaient plus bosser. Et donc, elles étaient allées se coucher et elles avaient une relation incestueuse. Et apparemment, les patronnes les auraient découvertes à moitié dévêtues, descendant de la chambre. Et c'est ce qui aurait créé ce choc. Et ce qui fait qu'elles, par un choc psychique, mais aussi peut-être par une peur d'être découvertes...
Pour
effacer les traces, elles ont préféré tuer. Et elles n'ont jamais nommé. Juste Léa, la jeune fille, la jeune des deux sœurs, dira « Cette nuit-là, on a été dérangés. » Très tardivement dans le procès. Donc voilà. Peut-être que c'est ce qui a créé ce dérèglement, l'homosexualité étant condamnée à l'époque et l'inceste, lui, l'est toujours. Et au passage, ce week-end, donc samedi et dimanche, j'anime donc avec des stagiaires de Die et puis de Valence, puisque c'est un projet coporté par la Comédie de Valence et le Théâtre de Die, un stage où on va s'amuser, s'expérimenter à découvrir quelle est la parole des sœurs Papin, donc celles qui ont commis le crime, et quelle est la parole des sœurs fictionnelles qui s'appellent les sœurs Le Mercier, inventées par Genet. À quel endroit il y a des rendez-vous, à quel endroit on voit la langue du poète, et puis l'autre c'est une langue populaire brute de 1933.
Cette pièce de Genet maintenant,
c'est une fantasmagorie, et au milieu de cette fantasmagorie, il y a un désir de célébrité, il y a un désir d'être connue pour l'acte, parce qu'elle pourrait tuer et vouloir le cacher. En fait, elles, leur désir, c'est de tuer et d'être reconnues pour ce fait qui, quelque part, est un peu sordide et morbide. Donc, elles ont un peu ce désir de célébrité qu'on retrouve. Enfin, là, on répétait au printemps, et il y avait l'histoire du dépeceur du Québec. C'est-à-dire ce mec qui, finalement, va filmer quelqu'un qu'il tue et va le diffuser sur le net. Donc, est-ce qu'il a... Il a certainement envie de tuer n'importe qui, d'ailleurs. C'est juste l'acte de tuer qui l'intéresse. Mais au-delà de ça, il veut être reconnu. Il veut que ça se sache. Donc, il est dans un désir de reconnaissance de célébrité. Et puis, plus largement, avec notre société actuelle et la télé-réalité, on voit que les gens sont prêts un peu à faire n'importe quoi du moment qu'ils deviennent célèbres. Finalement, la qualité de la valeur, pourquoi je suis connu, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est être connu. Et donc, du coup, je trouvais que c'est quelque chose qui est très propre à notre société. Et on s'est donc amusé à développer tout un dispositif vidéo et son qui font que les bonnes, par exemple, au lieu de se regarder dans un miroir, comme c'est indiqué, utilisent le miroir de leur iPhone. Vous savez, on se regarde dedans, on fait reverse et on se voit. Et en fait, avec un système de Wi-Fi, on récupère toutes les images qu'elles filment d'elles-mêmes ou de l'appartement et qu'on reprojette en grand écran. Donc à la fois, on est au théâtre et à la fois, par moment, on a des zooms qu'on pourrait trouver au cinéma. Et en même temps, ça parle bien de notre société où tout le monde, avec les webcams, Skype, son iPhone, finalement, est à la fois sujet et objet de ces objets peut à la fois devenir un acteur de sa propre vie en se filmant, en envoyant des vidéos, etc.
Alors, c'est très intéressant. On a glissé de la présentation de la pièce de Genet à la manière dont Éric Massé met en scène cette pièce. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu quand même sur la pièce. Vous aviez commencé en parlant de la poésie de Genet, de sa manière d'écrire. Est-ce qu'on peut approfondir ?
Oui, alors, Genet, ce qui est très beau, c'est que par moments, il est extrêmement concret. Et puis après, il s'évade dans une poésie un peu romanesque. Et d'ailleurs, les personnages le disent. Elles disent, elles lisent aussi bien des romans avec des grandes héroïnes qui les inspirent pour leur acte que Détective, le magazine vraiment trivial, quoi, qui existe toujours. Genet, d'abord, aimait beaucoup à la fois, il pouvait lire Proust comme détective, et c'est ça qui fait sa force, et ça se retrouve dans son écriture. Et par rapport à ça, justement, on a essayé, pour ce qui était plus, on va dire, poétique, de travailler sur des choses carrément beaucoup plus musicales, et d'aller carrément vers le fait que ça puisse être chanté par moment. Donc on a, je pense que la pièce dure à peu près 1h25, on a bien 20 minutes où les actrices vont chanter leur texte, puisqu'on est parti sur le fait que Madame était une chanteuse. Alors une chanteuse, on ne sait pas bien si c'est vraiment une chanteuse, mais c'est une jeune fille branchée qui aime chanter, qui chante ses amours et ses désespoirs. Donc comme les bonnes, en son absence, parodie Madame, c'est-à-dire qu'elle, c'est exutoire, c'est un peu comme au carnaval, hein, pour arriver à survivre, on a besoin de transgresser. Donc il y a le jour du carnaval, on peut inverser les rôles, se maquiller, bouffonner. Donc ça commence un peu comme un carnaval dans lequel on les voit chanter, mais on ne sait pas encore qu'elle parodie Madame, mais on le découvrira plus tard.
Maintenant, présentons les comédiennes qui sont avec vous.
Ben, le duo des bonnes, c'est Cécile Bournet et Marie-Laure Crochant, qui sont des très belles actrices. Cécile a été formée dans la même école que moi à Saint-Étienne. Et c'est une très bonne musicienne, accordéoniste, qui a eu des prix. Donc ça, c'est rare d'avoir à la fois quelqu'un qui peut jouer d'un instrument extrêmement bien chanté et puis très bien joué. Donc ça fait un atout assez conséquent. Et puis Marie-Laure, qui est donc sa sœur dans la pièce, est une actrice qui a été formée au Théâtre National de Bretagne, qui était sous la direction de Stanislas Nordet à ce moment-là, au niveau de l'école, j'entends, et qui a fait un très beau parcours et qui a énormément tourné un projet, un solo qui s'appelle La Religieuse, d'après l'histoire de Diderot. Et ce qui est assez beau, c'est que on peut dire que c'est des femmes enfants, c'est-à-dire qu'elles sont assez petites, elles sont menues, elles ont des visages assez ronds et enfantins, comme on le voit sur l'affiche.
Ouais.
Et du coup, voilà, c'est déjà une surprise parce qu'on s'attend beaucoup à des filles un peu plus charpentées ou nerveuses, avec des physiques peut-être un peu plus décharnées parfois. Et là, la première proposition déstabilise, je pense, un petit peu le public et puis en même temps, elle est fascinante. Et je les ai choisies.
C'est l'acte
aussi
final qui est rude, c'est pas forcément la, les personnages.
Ben, l'acte final, si les personnages, elles ont quand même des désirs morbides à un moment donné. Hein. Oui. Donc il y a des gens que ça peut repousser.
Ils porteront dans un bois et sous les sapins. Au clair de lune, nous la découperons en morceaux et nous chanterons. Nous l'enterrerons sous les fleurs, dans nos parterres, que nous arroserons le soir avec un petit arrosoir.
C'est elle qui rentre. Claire, tu es sûre de tenir le coup?
Il en faut combien?
Mais en 10. 10 cachets de gardenal dans son tilleul. Tu oseras?
Oui, j'ai le tube.
Et puis, je les ai choisis aussi parce qu'il fallait que ça fasse un jeu de miroir avec Madame. Puisque de toute façon, comme elles imitent Madame, il fallait bien qu'il y ait un endroit où il y ait un écho. Et donc, j'ai choisi une Madame. Alors ça, c'est un peu la révolution pour la pièce. Parce qu'en général, on choisit des Madames âgées, voire même très âgée. Et là, j'ai choisi une jeune fille qui fêtait hier soir avec nous ses 22 ans. Et donc là, on a à nouveau une femme-enfant, sauf que c'est un autre genre d'enfant, puisque c'est une femme-enfant qui fait 1m83. Ça, c'était pour une autre raison, c'est que Jeannette dit que la pièce est un conte. Et moi, quand on parle de conte, alors pour éviter les contes un peu naïfs, c'est vrai que je pense toujours à Alice au Pays des Merveilles, qui est toujours trop grande ou trop petite pour faire ce qu'elle a à faire. Et là, je trouvais ça intéressant que ben, le lieu était peut-être été créé pour Madame, donc les bonnes sont toujours pas à la bonne échelle pour vivre dans le lieu de Madame, et inversement, quand Madame va dans leur lieu, elle se tape parce que les espaces sont plus encombrés, plus réduits. Voilà, donc ça me plaisait beaucoup. Et du coup, ben, on a quelque part trois femmes-enfants qui, sur des registres un peu différents, vont à la fois ben, se retrouver dans cette enfance infinie, comme dans un jardin où on ne vieillirait jamais.
Alors, on a quand même la chance d'avoir un metteur en scène qui vient de nous livrer quelques clés de... Moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où, une fois que vous avez lu cette pièce, vous vous dites, tiens, finalement, je vais commencer par un carnaval, je vais faire chanter les gens, je vais choisir une dame d'1m80.
D'abord, j'aime l'écriture de Jeannette parce que j'ai beaucoup de mal, moi, en tant que metteur en scène, je peux pas monter une pièce qui parle juste de réalité. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Ah bon, ben, je t'ai vu faire ça, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, je choisis toujours des pièces où, plus oniriques, ou autrement, il y a un panachage entre une écriture parfois réaliste et parfois onirique ou fantasmée. Donc, ça, c'est déjà la qualité de l'écriture correspondait assez bien à mes désirs. Après, le fait que ces personnages viennent d'un milieu, justement, assez prolétaire, populaire, me plaisait aussi parce que quelque part, j'y retrouve mon propre parcours. Et certainement chez Genet, qui venait aussi, bon, qui était un enfant adopté dans une ferme jusqu'à son adolescence. Puis plus tard, il a été pas mal enfermé dans des camps de redressement, comme à Maitrey. Voilà, je m'identifiais peut-être aussi à son parcours. Et puis après, c'est l'actualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on relit la pièce, ça fait écho à l'actualité. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une dimension musicale dans les pièces. Sa langue s'y prêtait. Donc voilà, ça se fait par association d'idées. Et puis, il a écrit un très beau texte qui s'appelle « Comment jouer les bonnes ». Il était très mécontent de comment les mises en scène étaient faites à l'époque. Donc une douzaine d'années après la pièce, paf, il envoie « Comment jouer les bonnes ». Et dans « Comment jouer les bonnes », il y a pas mal d'indications sur la mise en scène, l'endroit de jeu des actrices. Donc il dit « Voilà, c'est un conte, en fait, par exemple ». Donc toutes ces notes-là ont résonné et c'est comme des réponses que j'ai proposées à travers la pièce à « Comment jouer les bonnes ».
Il met beaucoup de didascalie dans des endroits, des précisions vraiment d'espace, etc. Ou il laisse quand même une liberté
Pour l'espace, il était dans l'imaginaire de l'époque. Hein, donc il dit c'est un lit à baldaquin, il y a une coiffeuse. Voilà.
Ah oui, donc c'est un petit peu suranné. Il est précis quand même.
Mais dans Comment jouer les bonnes, il dit si la pièce est jouée à Épidore, donc théâtre grec complètement vide, il suffira de se mettre d'accord devant les spectateurs où est la cuisine, où est le salon, voilà. Donc en fait, il a déjà à l'époque aussi cette capacité de se dire voilà, moi j'ai proposé ça, mais maintenant vous pouvez faire complètement autre chose, et puis peut-être qu'on peut dire aux spectateurs tenez, là il y aura un lit, là il y aura la cuisine, et puis après les actrices se meuvent entre ces différents espaces. Après, dedans, des fois, il explique comment il veut que certains mots soient prononcés. Donc, elles ne disent pas « tilleul », parce que normalement, elles empoisonnent madame en mettant du gardénal dans le tilleul, mais elles disent « tilleul ». Voilà, donc des fois, il est très, très précis sur des façons dont les choses doivent être dites à l'intérieur du texte.
Tout ça pourquoi ? Pour qu'on retrouve peut-être l'origine de ces personnes. Là, par exemple, c'est un accent précis.
Ouais, tout à fait. Je pense que c'était beaucoup lié à ça aussi, une attention particulière à la langue. Puis comme il savait qu'il travaillait sur une langue qui parfois est très poétique, voire un petit peu surannée, mais qui est tout à fait assumée de sa part, je pense qu'en contrepoint, il voulait qu'elles aient des façons de s'exprimer ou avec certains accents qui soient tout à fait particuliers et en contrepoint.
Et ça me fait penser que si tous les metteurs en scène suivants ou précédents respectent cette règle, ça rendra la pièce un peu plus figée quand même dans le temps, alors qu'elle est intemporelle.
Non, parce que, par exemple, moi, j'ai monté cette pièce il y a 10 ans. Bon, il y a 10 ans, j'avais des caméras sur scène. Mais il y a 10 ans, les gens avec les caméras se sentaient opprimés. C'est-à-dire qu'une caméra, c'était la surveillance, on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, on l'a vu avec Internet. C'est-à-dire que les révolutions arabes ont eu lieu parce qu'il y a Internet et qu'il y a des réseaux sociaux justement qui échappent au pouvoir. Donc on est aussi dans un moment donné de la société où le rapport à la technologie s'est complètement modifié puisque pas mal de gens s'en emparent, montent des structures, inventent des concepts et dépassent ce côté où il y a trois savants qui savent faire et nous on est juste là à subir. Donc au jour où on monte la pièce, si je la remonte dans 10 ans, on sera dans une autre actualité et la pièce va nous raconter encore autre chose. Donc je ne pense pas que ça fige. Au contraire, ça crée plutôt un lien entre les mises en scène et le temps et les histoires vont le faire évoluer. Moi, il y a une vingtaine d'années, dans les premières pièces que j'ai vu les bonnes et les deux bonnes étaient deux hommes et c'était deux maghrébins. Bon, alors est-ce qu'on referait une mise en scène similaire aujourd'hui ? Je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, elle était tout à fait pertinente. Mmh.
Ouais, donc en fait, elle est vraiment intemporelle, cette pièce.
C'est ça. Les bonnes pièces sont intemporelles.
Ainsi, madame, nous tue avec sa douceur.
avoir des éléments de décor? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces jeux de caméra, donc?
Alors, le décor, je l'ai voulu comme un espace un peu spiralaire, donc un endroit où quelque part on sente qu'il y a quelque chose de concentrique dont on ne peut pas sortir, il n'y a pas d'angle en fait. C'est que comme une grande coquille d'escargot. Et la coquille d'escargot est vide, on va dire, mais les murs sont travaillés, alors on va dire d'un côté de façon très bourgeoise, donc ça va être un mur blanc avec des petites corniches, etc. Et plus il va partir du côté de l'espace des bonnes, plus il va se noircir jusqu'à devenir complètement calciné. Donc on a sur le même plateau, en fait, deux tonalités complètement différentes, un espace qui est donc habité par Madame, qui est un grand écran blanc, vierge comme elle, et sur lequel on peut justement projeter les images vidéo, et ensuite un espace beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, plus accidenté aussi, qui fait que les bonnes à l'intérieur sont dans un espace qui est plus douloureux pour elles. Après Madame, on en a fait voilà, une jeune nana friquée, comme c'est indiqué dans la pièce, hein, qui a des robes faites par des grands couturiers, etc. Et à côté, les bonnes, on dit, elles font tapisserie. C'est-à-dire que leur costume de service, c'est des fleurs qu'il y a à un moment donné dans une tapisserie qui est projetée. Donc voilà.
Où peut-on vous voir encore, puisque ben, les gens seront allés
La pièce présentée à Die, donc est spécifique avec tous ses partis pris. La pièce qu'on emmène en décentralisation, bien sûr, n'est pas en petit ce qu'on fait en grand.
Ouais, ce qu'on appelle
c'est une toute autre pièce.
Ouais, la petite formule...
Voilà, la petite formule, on appelle ça les bonnes, intimité.
Intimité.
Parce qu'on est vraiment dans l'intimité des bonnes. Et là, ben, sur le grand plateau, vous êtes dans l'espace de Madame, et les bonnes disparaissent d'un côté pour aller au dressing, de l'autre côté pour partir en cuisine. Et dans les bonnes intimités, on ne passe notre temps que dans le dressing, dans la cuisine. Donc c'est comme si on était dans les coulisses de ce qu'on voit sur le grand plateau.
Et Madame n'est plus présente du coup ?
Et Madame n'est plus présente. Madame, on ne la voit que justement grâce à une caméra de surveillance que la bonne regarde depuis la cuisine. Donc les spectateurs sont accueillis dans le dressing, où les filles justement piquent les fringues de Madame, la parodie. Et puis ensuite, quand Madame arrive, on emmène tout le monde en cuisine. Et au lieu d'assister à la comédie de Madame, on assiste à la comédie de la bonne qui elle-même empoisonne le tilleul sous les yeux des spectateurs pendant que Madame est en train de jouer. Donc voilà, c'est vraiment deux histoires complémentaires. On n'a pas fait en petit ce qu'on avait fait en grand. Et alors, on se retrouve mardi 18 décembre à Saint-André-Oldeberg, mercredi 19 décembre à La Gorce, jeudi 20 à Saint-Montant, et puis on finit le vendredi 21 à Chambonas.
Donc tourner des choses de petites formules.
C'est
de
ça. Et là, on va jouer dans des restaurants, des cryptes et des salles des fêtes. Donc ça va être assez original.
Des cryptes, quand même. Ça, c'est terrible.
Mais qui vont donner du relief à la pièce à chaque fois. C'est-à-dire quand on joue dans une crypte, c'est la dimension spirituelle, voire religieuse qui existe dans la pièce qui va être exacerbée. Alors que jouant dans un restaurant, c'est la dimension plus domestique qui va l'être.
Bon, il y a combien de versions des bonnes par Éric Massé alors ?
Ben là, j'en suis à 5.
5 versions, 5 ouais, adaptations ouais. Possibles pour 5 espaces différents en fait.
Bah, là on a 2 versions et puis après c'est vrai que la petite forme on a joué dans un tribunal donc forcément bon, bah, le tribunal il y a l'espace où l'accusé parle, il y a des micros, il y a des choses comme ça donc on s'adapte, donc on va dire qu'il y a la grande forme et la petite forme elle se décline sur le même principe mais elle se décline en fonction des lieux d'accueil de l'imaginaire aussi des gens qui nous accueillent qui nous proposent des fois des lieux très attendus inattendus pardon.
Alors pour que nous on fasse travailler notre imaginaire, est-ce qu'on pourrait avoir une liste de lieux inattendus dans lesquels vous avez joué?
Bah, le plus inattendu c'est le tribunal. Parce que bah, il nous arrivait des
histoires. Donc en respectant tout, hein, vous gardez le décor tel quel.
On garde le tribunal et on intègre notre décor. Et par exemple, les filles, à un moment donné, se disputent sur un sujet avec des termes qui, en fait, sont assez judiciaires, mais qui ne s'entendent pas tant que ça. Et là, d'un seul coup, le fait qu'elles soient dans un tribunal, bah, ça a mis en exergue ces mots.
Et le public, c'était quoi ? C'était un public de
juristes ? Alors, le public,
juriste.
C'était 50% des gens du tribunal de Valence. Hein. Donc, c'était des avocats, des présidents de cours d'assises, des choses. Et puis après, du tout public avait pris un abonnement ou un billet le soir même.
Okay.
Voilà. Et donc, à un moment donné, il y a une des bonnes. On dit, ah bah tiens, l'après-midi, tiens, tu vas te mettre là, tu peux prendre le micro. Et voilà. C'était la place de l'inculpé. Et elle le fait. Et le soir, on n'a pas fait attention, la porte s'est claquée. Et forcément, un inculpé, il ne peut pas sortir. Il y a une poignée que de l'extérieur. Donc là, bon, bah forcément, ça a été, la comédienne arrive une fois, deux fois, elle voit qu'elle ne peut plus ouvrir la porte, ce qui n'était pas arrivé quand on a travaillé l'après-midi pour remettre le spectacle au point. Bon, bah, du coup, elle a escaladé le box des accusés, les spectateurs, etc. Voilà. Donc ça, c'était assez... voilà, ça crée aussi des situations, mais ça nous confronte à la réalité. Donc ça a été très particulier. On a aussi joué dans des restaurants. donc des restaurants, par exemple, de lycée. Donc là, on ne l'a pas fait en Drôme-Ardèche, mais ça nous arrivait dans d'autres régions d'être accueillis, par exemple, dans des lycées. Et, bon, ben, quand on arrive dans la cuisine et qu'il y a 30 mètres d'inox devant nous dans l'œil, ça crée autre chose. Et des fois, ça même arrivait qu'il y a un dîner qui se préparait dans un lycée. Donc, on avait des femmes avec des charlottes qui passaient avec des plats, etc. Donc, voilà, ça donne un petit balai qui coûterait une fortune à créer et qu'on avait naturellement à cet endroit-là. Et la semaine prochaine, la crypte, on n'a pas fait encore de lieux religieux ou qui sont désacralisés, bien sûr, mais voilà, donc ça, c'est... Voilà, on va voir, une attente.
Alors, comment peut-on vous joindre pour commander tout ce genre de vous proposer des lieux farfelus, tout ça?
Ben, nous, on est en partenariat avec la Comédie de Valence. Donc, la Comédie de Valence, c'est le Centre Dramatique National pour la Drôme et l'Ardèche. Donc, faut les contacter directement. Mmh. Moi, je fais partie du collectif artistique qui représente 8 artistes qui sont arrivés avec Richard Brunel, le nouveau directeur, depuis 2 ans et demi. Et donc, on est souvent soit imaginer des projets ensemble, soit sur le territoire à les tester. Et voilà. Donc, bienvenue.
Pour terminer comme ça avec des chiffres, c'est combien de dates par an, les bonnes?
Bah, là, c'est la création. Donc là, on est à peu près sur une 50aine de dates, hein, ce qui fait quand même en assez peu de temps. Donc c'est assez lourd. Enfin, c'est parce que changer de lieu tous les jours, hein, c'est du voyage. On était là, on a joué à Lucandiwa il y a 15 jours. Ben, c'était le moment où il s'est mis à neiger comme pas possible. On était Saint-Nazaire-le-Désert, etc. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Et en même temps, c'est super parce que les spectateurs nous redonnent beaucoup le soir même. On prend des pots aussi avec eux systématiquement pour parler de la pièce, de la vie. Ils nous accueillent nous faisant à manger. Donc voilà, il y a un très très bel échange.
Eh bien, Éric Massé, metteur en scène de la pièce Les Bonnes, d'après Jean Genet, merci bien.
Bien, merci à vous.
Pour cette présentation. Et puis, Isabelle, est-ce que tu aurais envie d'avoir un mot de la fin, tiens?
Bien sûr. Non, surtout qu'on a été très... Voilà, on est très fiers d'accueillir Éric Massé, qui est quand même artiste associé à la Comédie de Valence. On a un partenariat avec la Comédie de Valence depuis déjà la saison dernière, puisqu'on... On a fait des navettes pour aller voir des spectacles régulièrement, donc à la Comédie. Mais c'est la première fois qu'on accueille, nous, un artiste au Théâtre de Die. Il y aura aussi 2 spectacles, justement, avec des navettes. Un en février, je crois, et un au mois de mars ou mai. En tous les cas, voilà, il suffit de regarder le programme.
Mais c'est lesquels, alors?
Il y a Le Gorée par
Joanne Hibert.
Et puis Le Misanthrope
par Jean-François Sivadier.
Voilà. Donc, à ne pas manquer aussi. Donc, voilà, une petite navette part du Théâtre
de Die. Mais je les connais parce que je connais les artistes.
Bah oui, c'est normal. Les complémentaires.
J'ai déjà vu un des 2 spectacles qui sont très chouettes. Donc, les interprètes sont super dans les 2 spectacles. Très belle.
Et ça, c'est bien d'être en groupe comme ça dans une...
Oui, parce que, par exemple, sur Les Bonnes, Richard, donc le directeur du CNN, il est venu voir 2 filages. Il m'a fait des retours en amont. Il y a d'autres artistes du collectif artistique qui sont venus. Donc, on a une confiance particulièrement forte les uns avec les autres. On ne se sent pas en compétition ou jugé, comme ça peut être le cas parfois, parce qu'on sait qu'on travaille pour un même projet qui est le projet du CDN et puis pour nos projets respectifs, bien sûr. Donc ça, c'est très agréable. Et en ce moment, par exemple, on est en train de travailler à une pièce. Donc c'est un des auteurs du collectif, Olivier Balazuc, qui l'écrit. Mais on se voit tous les 2 mois, il nous la lit et on lui fait des retours très ouverts parce que de toute façon... on va jouer dedans, ça va être nous qui allons être les interprètes. Et puis, voilà, ça fait partie du jeu que d'être dans cet endroit de confiance. Et ça fait du bien dans notre société du spectacle qui est parfois un peu agressive et qui vit des contraintes budgétaires très importantes en ce moment, d'avoir un endroit où, quelque part, les choses s'inventent de façon plus collégiale.
L'avenir de la culture, c'est sans doute ça.
Et c'est sans doute ça, oui.
Et Est-Ouest Théâtre de Die l'a bien compris, déjà, vous le faites pas mal, mutualiser comme
exactement.
Ça.
Exactement, et faire des croisements. Puis après, on se retrouve au mois de janvier. Voilà.
Pour un, ouais. Et en février.
De bonnes fêtes alors.
Bah ouais, merci. Merci bien en tout cas. Merci d'être passé.
Au revoir.
Merci.
J'ai trop travaillé. C'est la peur de m'exténuer.
Interview. Ok. Le beurre. L'interview du jour.